Aujourd'hui, j'ai pris 2 heures de mon temps pour regarder Novak Djokovic contre deux mineurs en huitième de finale en Australie, qui a gagné en 3-7.
Eh bien, écoute, j'espère que c'était.
Voilà, non, mais c'est tout ça pour dire qu'on s'est un peu ennuyé sur les marchés aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de volume, mais enfin, ça ne gâche pas le plaisir d'avoir une nouvelle séance de hausse. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet cette semaine avec pas mal de publications. LVMH, Alstom, Publicis, ST Microelectronics.
Bah c'est ça, pas mal de choses à venir. Et ce qui se passe, c'est qu'on a plus 8% de hausse sur le CAC depuis le début de l'année. Et on se demande, est-ce que ça va continuer comme tu viens de le dire, beaucoup de publications à venir, notamment LVMH jeudi. Est-ce que ces publications vont porter le marché et je te propose d'ailleurs qu'on s'intéresse directement à LVMH, hein, première capitalisation boursière européenne.
Alors, première capi, 400 milliards.
400 milliards, c'est beaucoup quand même. Hein.
C'est complètement dingue. Moi, ouais. Moi, j'allais à la bourse dans les années 80, 86, 87. J'étais à Dauphine et j'allais tous les midis à la bourse. Et il y avait un vieux monsieur à l'époque. Véridique, cette histoire. C'était à l'époque, Juiton, Annecy, etc. Ouais. Il m'a dit, j'ai rencontré un type hier extraordinaire. Il a dîné à la maison. Il s'appelle Bernard Arnault. Et il m'a dit, il avait 80 ans à l'époque, tu devrais mettre un petit peu d'argent dans l'action Louis Vuitton parce que tu verras... Ce gars-là est exceptionnel. Et quand on voit 36 ans après, puisque ça fait déjà 36 ans, c'est vrai qu'on a beau critiquer, j'entends des critiques complètement débiles sur Bernard Arnault. Et franchement, réussir à faire d'un groupe la première capitalisation européenne avec 400 milliards de capitalisation boursière, une rentabilité qui est passée en l'espace de 3 ans de 21% à 29%, un chiffre d'affaires qui, année après année, augmente entre 15 et 20%, sauf bien sûr cette année 2020, un free cash flow en permanence positif, un ratio d'endettement extrêmement faible, tu te dis que franchement, c'est un super dossier. Alors maintenant, que faut-il faire? C'est vrai que ça faut 25 fois les bénéfices. Mais la problématique, c'est qu'LVMH, c'est 17% du CAC 40. Et donc, quand tu es gérant de fonds, si tu veux acheter à Paris, toi, tu es un gérant suédois, américain, chinois, taïwanais, tu veux acheter à Paris, bah, tu ne peux pas te priver d'acheter LVMH. Je ne parle pas si tu fais de la gestion passive en achetant des trackers. Et donc, c'est incontournable dans tous les portefeuilles. Bien sûr, si la pub n'est pas bonne, on peut perdre 2%, 3%, 4%. Mais franchement, on a l'impression que c'est une vague de fond qui, comme Apple aux États-Unis, ne va pas s'arrêter. Alors, tu vas me dire, oui, mais Apple a perdu en un an, enfin, on va en reparler. Mais ça reste quand même des super dossiers.
Donc là, LVMH, même après le bon parcours récemment, ce record de capitalisation, pour toi, il y a encore de la hausse derrière possible.
C'est comme l'air liquide, si tu regardes, ouais. Si tu regardes sur 30 ans, air liquide, leader mondial des gaz industriels, que monter. Alors bien sûr, lundi prochain, tu peux me dire, non mais attends Eric, mais t'étais un abruti fini, ça a perdu 7%, t'as rien compris, bien
mais
sûr. Non,
mais ça peut perdre un peu, mais je veux dire sur le long terme.
Non mais c'est des super dossiers, ce sont des super dossiers. Alors est-ce qu'il faut l'acheter aujourd'hui avec 10% de baisse, je sais pas, mais si t'as envie de mettre, disons, 5000 euros sur LVMH, t'en mets 1000 aujourd'hui, puis t'attends de voir les résultats, mais ça reste une super boîte, franchement. Et en plus, ils ont du pricing power, c'est-à-dire que la possibilité d'augmenter leur prix, quelle que soit la demande, c'est-à-dire que la demande ne bouge absolument pas et au contraire elle augmente, parce que paradoxalement dans ce monde du luxe et de l'ultra-luxe, si le prix de ta montre passe de 15 000 à 18 000, tu vas l'acheter. Parce que tu auras l'impression d'appartenir... Non mais c'est un truc complètement dingue, parce que tu as l'impression d'appartenir à une certaine catégorie socio-professionnelle. Et donc ils ont un tel pricing power, c'est la même chose pour Hermès, que tu te dis, il ne peut pas se passer grand-chose sur LVMH d'horrible. Et même s'il y avait un problème avec Bernard Arnault, tu as vu qu'il a nommé sa fille la semaine dernière dans une des branches du groupe et qu'il a nommé un de ses plus proches collaborateurs dans une des autres branches, en l'occurrence Christian Dior, de sorte qu'il ne peut pas se passer grand-chose. La transition est assurée, il a 5 enfants, il travaille dans la boîte, ils ont tous fait des études. Donc voilà quoi.
C'est, bon, donc tu prédis un avenir radieux pour
LVMH. Si tu veux, moi quand j'entends les écolos ou certains socialos, enfin je ne veux pas faire de politique ici, mais oser critiquer un type qui donne de l'emploi... à des centaines de milliers de personnes dans le monde, non seulement à travers LVMH, mais à travers les sous-traitants, bah, tu vois, il y a un moment où ça va, quoi.
Ouais, non mais c'est sûr, mais après là, c'est encore un
salaud de riche, ça passe pas, quoi.
Ouais, non mais après, c'est encore un autre débat, mais en tout cas, toi, tu penses que même si c'est sur des records, tu te dis, bon, sur le long terme, ça peut...
Voilà. C'est 17% du CAC, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive,
ouais. Ok, non, mais d'ailleurs, ça nous amène à une question, voilà, de Bernard, hein, tiens, on parlait de Bernard Arnault, il y a un vrai Bernard qui nous a, un autre Bernard qui nous a écrit, et qui te demande, Eric, d'ailleurs, à toi, à votre avis, vaut-il mieux acheter 2 actions à LVMH ou une action Hermès? C'est une vraie question, si on veut aller.
Non, mais la question, non, je ne devrais pas dire ça à Nanar, mais la question n'a aucun sens. Parce que c'est vrai que si on fait deux fois
LVMH. Mais justement, non, tu vois, non, mais, c'est... Bah, explique pourquoi tu.
Non, mais parce que c'est, si tu veux, c'est comme si une action vaut 13 euros, l'autre elle vaut 65. Tu dis, est-ce qu'il faut mieux acheter 5 actions à 13 ou une action à 65? En fait, les deux sociétés sont différentes.
Donc, moi. Bon, donc là, entre acheter du LVMH et acheter
non,
du.
Hermès et de l'ultra-luxe. Quand LVMH fait 29% de rentabilité, Hermès fait entre 35 et 38%. La grande problématique d'Hermès, c'est que c'est ultra cher en bourse, ça vaut 46 fois les bénéfices, mais ça a toujours valu entre 40 et 50 fois.
Donc pour toi, c'est la norme pour ce genre.
Moi, Hermès, j'avais fait acheter chez notre ami Guillaume Sommerer à 1100, 1200, j'avais dit, il faut acheter, ça vaut 1006. Donc Hermès, je pense que c'est la même logique, ça peut un petit peu consolider, mais ça reste des super boîtes. Tout ce qui est luxe et ultra luxe, ça marche de folie. Rolex, il refuse d'être coté. Je serais curieux de savoir les rentabilités. Chanel, il refuse d'être coté. Je serais curieux de connaître les rentabilités. Enfin, quand tu vois, balade-toi. Moi, je me suis baladé hier, Faubourg Saint-Honoré. Je me suis baladé, j'étais boire un café. Enfin, dans ces boutiques-là, qui étaient ouvertes le dimanche, il y avait un monde de malades. C'est-à-dire que tu fais la queue, 20 minutes chez Chanel, une demi-heure chez LVMH. Et les gens, ce n'est pas simplement pour regarder, c'est simplement pour acheter. Alors, tu vas me dire, ça fait un peu... Ce que je dis, ça fait un peu poujadiste, le petit mec qui se balade, etc. Mais c'est vrai que on a le sentiment que le luxe, il ne peut pas se passer grand-chose. Même avec la Chine qui s'est fermée, etc. Regarde, les cours de bourse sont quasiment au plus haut. Donc Hermès, LVMH, peut-être pas aujourd'hui au cours actuel, mais ça reste des valeurs qu'il faut avoir en fond de portefeuille.
Et pour rester dans les grosses capitalisations, on va passer de l'autre côté, là, du coup, du côté des États-Unis. Première capitalisation des États-Unis, Apple. Voilà. On a eu des questions sur Apple.
Apple qui n'a toujours pas licencié, contrairement aux autres.
Oui, mais alors, on a du mal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'en fait, on voit dans la tech, ça licencie un peu de partout. Qu'est-ce qui se passe?
D'abord, je vais répéter ce que j'ai dit chez Guillaume, excuse-moi là-dessus, mais c'est un réajustement classique. C'est-à-dire, grosso modo, il y a eu le Covid en 2020, et donc on a digitalisé.
Ça a grossi trop fort.
Tout le monde était sur Internet, les jeux, les trucs, les machins. On achetait à bouffer par là, les films, Netflix, streaming, les réseaux, les applications, Tinder, machin. Tout le monde était sur tous les trucs. Et donc, ils ont embauché comme des malades. Toute la tech a embauché comme des malades. Et là, c'est un réajustement. Il y avait 163 000 salariés fin 2019 chez Microsoft. Il y en avait 220 000. Fin 2022. Et donc là, par Microsoft dit, ils virent 10 000 personnes. Mais ils sont à 210 000. Donc si tu fais le solde entre fin 2019 et maintenant, ça fait toujours 47 000 en plus. Donc ça veut dire que ce sont des réajustements tout à fait classiques. Et donc qui ne mettent pas du tout en péril le secteur. On n'est pas en 2000, période que j'ai vécue, alors j'étais rédacteur chef ici sur BFM qui n'était pas encore business, où tu avais des licenciements parce que les boîtes étaient au bord du gouffre. C'est-à-dire que les boîtes perdaient de l'argent, fonds propres négatifs, perte de part de marché. Là, on n'est pas dans ce cas de figure. Donc, la tech qui licencie, à la limite, c'est normal. C'est un retour à la normale. Il n'y a rien de gravissime.
C'est une consolidation, quoi.
Ouais,
en gros,
non, c'est pas une consolidation. C'est qu'il n'y a rien de gravissime, si tu veux. C'est une période tout à fait classique, comme il en arrive dans de nombreux secteurs. Ça ne veut pas dire que la tech est morte. Et d'autant plus que moi, je pense que les valeurs de tech, je me demande s'il n'y a pas un coup à faire cette année. Quand on voit quand même que le Nasdaq, sur un an, perd encore 25%. Et quand on voit surtout que les taux, aux États-Unis notamment, ne devraient plus tellement monter, puisque la semaine prochaine, réunion de la Fed, on aura une hausse de 25 points de base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pense que les taux ne vont plus tellement monter aux États-Unis, bah, il faut acheter de la tech. Et donc, il faut acheter de l'Apple, il faut acheter du Microsoft. Apple, c'est quand même 30% de rentabilité. Ça reste quand même une super boîte. Alors on a dit, ah ouais, non, mais il y a des inquiétudes sur la Chine. OK, ils vont fabriquer en Inde. Ça reste un beau dossier. Ça vaut 22 fois les bénéfices. Ça perd encore 15% en un an. S'ils n'annoncent pas de mauvaises nouvelles, c'est la boîte qui est incontournable qu'il faut avoir en portefeuille.
Donc pour toi, la tech, c'est le secteur va bien, il faut juste dézoomer.
Je sais pas, c'est quoi? Non, toi, tu n'as pas d'Apple, si?
Comment?
Ton portable, c'est un Apple?
Ouais, mais c'est un Apple, par exemple. Voilà. Ouais.
Sortons-le, mais par exemple, regarde nous deux.
Voilà.
Apple? Voilà. Non, mais bon. Ce que je veux dire. Attends, on n'a pas fait exprès. Non. Ça reste incontournable.
Je pense qu'on est pas
les seuls, si je te dis, va chez Samsung, ouais, je connais le cousin du copain, de la belle-sœur, de la maîtresse qui a un portable. Tu vas me dire, non, je suis habitué à Apple. Donc, je crois qu'il y a... J'ai lu une étude, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a 2 milliards d'appareils dans le monde. 2 milliards. Donc, si tu veux, ils ajoutent des services à tout ça. Il ne peut pas se passer grand-chose sur cette boîte. Il ne peut pas se passer grand-chose. Donc, je suis plutôt je reste positif.
Donc, sur Apple et sur la tech en général, tu penses que là, on peut se repositionner et...
Bah, tu vois, hors antenne, tu me disais, oui, si je me constitue un PEA, qu'est-ce que je dois acheter? Qu'est-ce que tu en penses? Mon père m'a donné un peu d'argent parce que.
Alors on m'a rien donné pour l'instant. Voilà, c'est
mais, pas prévu qu'on me donne, mais on peut. Hein, voilà. La tech, ouais, je pense qu'il y a peut-être. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a certaines valeurs qui commencent à être intéressantes. En gros, si tu veux, c'est quand même. Si tu veux, LVMH au plus haut, Hermès au plus haut, je pense que ce sont des très bons dossiers, mais je ne suis pas sûr que ça continue en ligne droite. Et sur la tech, peut-être que Apple, peut-être que Microsoft, peut-être qu'Amazon, il y a peut-être des coups à faire.
Quand tu parles de la tech, toi, c'est la tech américaine plutôt ou
Non, en France, j'aime beaucoup STMicroelectronics qui va publier cette semaine. J'aime beaucoup Dassault Systèmes. Je trouve que Capgemini commence à être bien valorisé. Tu sais, la tech européenne, quand tu regardes la tech française, c'est quoi? C'est 8% du CAC 6-7% du CAC, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Quoi. Ouais, on parle beaucoup des licornes, mais dans les très grosses boîtes, il y en a 3-4. Quoi. Enfin, donc, ouais, la tech américaine. Tu vois, même Netflix, la semaine dernière, ils sont plutôt bons sur les abonnés, ils sont plutôt bons sur les services, la publication était plutôt de grande qualité.
Et justement, en période de publication comme ça, c'est peut-être une question que les gens peuvent se poser quand ils sont intéressés par une boîte. Toi, tu conseilles, alors le problème, c'est qu'on ne connaît pas, on ne peut pas prévoir les résultats à l'avance, mais tu préfères quand investir, tu dirais qu'il faut mieux attendre les résultats ou mettre une petite partie avant, puis une partie après? Comment tu...
Bah, moi, je trouve que c'est très casse-gueule. Moi, je trouve qu'avant, c'est très casse-gueule. Non, mais...
Comme c'est le risque de prendre non, mais moi, si attends, les non, résultats attends, sont bons derrière attends, ça. Tu
je change de paradigme. Si tu me dis par exemple, voilà, dans un mois, il y a les résultats, je ne sais pas, de Stellantis, est-ce que je peux en acheter aujourd'hui? Oui. Oui, j'aime bien la boîte. Mais si tu me dis, ouais, écoute Eric, demain, si les résultats sortent à 9h.
Bah, LVMH, par exemple, tu vois, on prend l'exemple d'LVMH.
Oui, mais LVMH, faut bien attendre qu'ils publient. Non, mais tu vois, le truc de moi, je ne crois pas, j'ai vu sur le CAC, je ne crois pas au coup de spiel la veille. Genre, ouais, j'achète à 16h52 LVMH, tu vas voir, ça va être bon les résultats.
Non, mais pas aussi précisé, pas aussi...
Non,
pas de parce qu'il y a des gens, qui... dire, peut-être que je mets un peu avant, parce que si les résultats sont bons, ça va prendre encore
alors,
la valeur. Tu vois.
Sur des boîtes qui sont extrêmement bien valorisées, je pense qu'il faut mieux attendre les résultats. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit couac. Un petit couac, c'est quoi? C'est moins 3, moins 4. Sur les boîtes, souvent, qui ne sont pas très chères, on peut tenter le coup.
D'investir avant.
Ouais, on peut tenter.
Mais
en mettant, pas en étant en effet de levier, pas en faisant n'importe quoi,
non,
pas
non,
en
non, achetant des CLD. Je parle d'investissement. Ouais.
Et donc, sur les bigs.
Non, mais c'est intéressant ton raisonnement.
Pas sur les micro et small. Pas sur les micro et small.
Ok, non, mais il faut.
Sur les big caps, why not?
Et c'est le big. En gros, ton raisonnement, c'est de te dire les boîtes qui sont déjà très fortement valorisées, on a plus de chances d'être déçu par les résultats que l'inverse. C'est ça, en fait? Alors que sur les petites, à l'inverse, on peut toujours être déçu.
Sur les boîtes qu'on morflait, comme on dit, la chance qu'on morfle sur les grosses boîtes est encore faible. Mais encore une fois, moi, ce n'est pas ce que je préconise. Moi, j'aime bien attendre la publication. Sauf si j'ai des boîtes depuis longtemps où je veux moyenner, je veux tenter quelque chose. Mais moi, j'aime pas trop les coups de spin en réalité.
Non, mais ok. Non, mais c'est intéressant.
C'est comme moi, je considère, mais bon, je vais me faire tuer par les gens qui commercialisent des Varan, des trucs comme ça. Moi, je considère que Varan, Turbo, tous ces trucs. Alors écoute, Amaury, ouais, le Bitcoin va prendre 10%, mais j'ai un turbo, je peux gagner 14 256%.
Franchement, c'est du trading, c'est un métier, quoi.
J'ai mis 3 000 euros dessus, je peux gagner 5 millions de dollars, enfin des conneries comme ça. Le nombre de mecs qui ont été ruinés. Moi, je n'aime pas les effets de la vie. Je pense que même les options, ça doit être pris en termes de couverture. En termes de couverture optionnelle. Et je pense qu'un particulier doit faire très très peu d'options, très très peu de variants, très très peu de
qu'est-ce que tu conseilles en faire? C'est d'investir simplement en action, spot, quoi.
En action, en spot.
Ouais, ok. Spot. Et d'ailleurs, toi, en ce moment, tu es plutôt action du coup, plutôt stock picking, c'est comment ça se...
Moi, je suis que stock picking.
Ouais.
Moi, je suis que stock picking. Après, sur les marchés, je ne voudrais pas qu'on monte en ligne droite comme ça.
Ce serait inquiétant pour toi.
Bah, ouais, ça fait quand même déjà 8%. De toute façon, depuis une semaine, il ne se passe plus grand-chose. Hein. C'est ce qu'on disait la semaine dernière quand on a fait notre point, toi et moi. Je voudrais pas que ça monte en ligne droite. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une petite incertitude, c'est que cette année, enfin sur 2023, on a prévu une stabilité du stock 600, qui est un peu l'indice européen. La problématique, c'est que dans chaque récession, les bénéfices du stock 600 baissent en moyenne de 28%. Donc il y a deux solutions. Soit il n'y a pas de récession du tout. C'est possible parce que les derniers chiffres en Allemagne...
Pour l'instant, ça tend plutôt vers ça.
Voilà. Soit y a pas, et dans ce cas-là, le zéro, on est d'accord.
Okay.
Soit il y a une récession, et donc on est plutôt entre 0 et moins 28, et donc les marchés sont, à mon avis, survalorisés. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire attention. Mais encore une fois, je le disais à Guillaume, et je répète, mais bon, c'est pas mal de dire deux fois le même conseil, l'impact de la hausse des taux, c'est pas tout de suite. Et donc, c'est à partir, à mon avis, du premier trimestre 2023, voire du deuxième trimestre 2023, qu'on aura vraiment les premiers impacts de la hausse des taux. Et donc c'est pour ça que moi, le quatrième trimestre 2022 qui sort, on s'en fout un peu, quoi. Parce qu'on n'aura pas encore du tout l'impact de la hausse des taux. Donc il faudra vraiment voir un, les prévisions qui seront données, et deux, à partir de avril-mai 2023 pour les T1, pour le premier trimestre, et juillet 2023 pour le semestre. Pour vraiment se dire quel est l'impact de la hausse des taux, est-ce qu'on est vraiment dans une récession microéconomique. Je ne parle pas de la récession des indicateurs macro, parce que les indicateurs macro, il y a souvent un décalage. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr que l'année soit un long fleuve tranquille. Je crois toujours que c'est une année qui va être placée sous le signe de la forte volatilité. Et que ça ne montera pas en ligne droite. Et il ne faut pas que ça monte en ligne droite. Parce que souvent, ça se termine bien mal. Et franchement, si on nous avait dit... je te rappelle quand même, c'est que les gens ne font pas tous des mathématiques, mais disons que 8% sur un mois, ça fait en annualisé, si on a le même rythme, plus de 110% sur un an. C'est complètement démentiel. Donc même si on avait quelques séances de consolidation, ça ne serait pas dramatique. D'autant plus qu'on va rentrer quand même fête la semaine prochaine avec sans doute 25 points de base, des commentaires des membres de la BCE, des résultats d'entreprise. Ça va être amusant, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on consolide sur les marchés.
Avec les données qu'on aura la semaine prochaine, même si on a des résultats qui sont bons et que la Fed...
Regarde, aux États-Unis, c'est pas top les résultats. C'est médiocre, il se passe pas grand-chose quoi, sur les indices. Enfin bon, je suis pas sûr que ça bouge beaucoup.
Bon, écoute, on verra.
Il y a que le Bitcoin que tu adores qui bouge. Ça vaut quoi, 23 000 ce soir
hein. Là, ça a bien monté là.
Qu'est-ce qu'il va faire monter, toi qui es un spécialiste.
Oh là là. Personne n'est spécialiste. Alors là, si quelqu'un pouvait savoir ce que le Bitcoin allait faire... Je pense que personne ne sait malheureusement.
Écoute, moi, chaque fois que j'ai fait du Bitcoin, moi, je voulais dire quand même à nos amis téléspectateurs, moi, je l'ai fait via des trackers. Il y a pas mal d'émetteurs de trackers Bitcoin. Je préfère ça à me mettre sur des plateformes où on a plusieurs risques, la faillite de la plateforme, comme on a vu, et puis le hacking. Ça me fait très peur. Donc, moi, j'ai toujours fait des trackers. Alors, tout le monde se foutait de moi en disant ouais, mais c'est pas ouvert la nuit, c'est pas ouvert le samedi, c'est pas ouvert le dimanche. Enfin, j'ai pas besoin.
Mais si tu fais pas de trading, t'as pas besoin.
J'ai pas besoin d'un outil ouvert 24h/24 pour que ça me rende fou le dimanche, quoi. Mais je sais pas, le Bitcoin, moi je pense que si le Nasdaq, je suis pas spécialisé du tout, hein, il y a des types mille fois meilleurs que moi, mais je pense que si le Nasdaq se reprend vraiment, ça peut être peut-être une bonne année pour le Bitcoin.
Bah, c'est ça, c'est qu'en fait le Bitcoin, il va vraiment dépendre de ce qui se passe en termes macro, en termes micro aussi, parce qu'il est aussi influencé par les résultats d'entreprise, qui influent le Nasdaq, donc qui va influer le Bitcoin derrière. Donc en fait, la trajectoire du Bitcoin en fait, va dépendre de la trajectoire que vont prendre les marchés d'une manière générale. Donc là, si ça continue à bien se passer pour les marchés, a priori, ça devrait bien se passer pour le Bitcoin. Donc bon, après, on ne sait jamais, mais c'est comme ça que ça devrait se passer. Donc évidemment, oui, on peut avoir un Bitcoin qui monte bien cette année. Après, comment il va monter? Est-ce qu'il va continuer à monter comme ça doucement? Est-ce que ça va faire un pic d'un coup et ça va retracer fort? On ne sait pas. Je lisais là tout à l'heure sur Twitter, etc. Il y avait pas mal d'analystes qui disaient que ça allait, qu'on allait aller en flèche à 25 000. Peut-être que oui,
Les mêmes qui à 18 000 disent on va à 15 000. Un dernier mot avant de se quitter sur Eutelsat. Je sais qu'on a une question, je ne sais plus de qui, Bernard, Gontran.
Là, c'est Thomas. C'est Thomas qui nous demande bon, Eutelsat.
Eutelsat, la problématique, ils sont en train de racheter OneWeb, qui était un opérateur britannique et en quasi-dépôt de bilan. Il n'y aura pas de dividende pendant 2 ans. Et c'est une dilution très, très longue avec, à mon avis, pas mal de dilution dans cette opération. Alors, c'est vrai que la boîte, ça vaut... Telsat, ça vaut 5-6 fois les bénéfices, c'est pas très cher. Ouais. Mais il y a quand même cette opération qui a été d'ailleurs très critiquée par Thierry Breton à son époque, il y a quelques mois. Et puis, moi, j'aime pas tellement ce genre d'opération dilutive parce que la problématique qu'on avait vue avec Alstom et Bombardier, ils l'ont racheté, c'était très bien. Mais après, le temps qu'ils l'intègrent, ça peut prendre de nombreuses années. Et en plus, comme ils suppriment le dividende sur Eutelsat, qui était une valeur de dividende, je pense qu'il faut encore rester à l'écart de la valeur. C'est bon ?
Parce que lui demandait, et toujours à mon plaisir, horizon 2 ans. Tu restes sur ce conseil-là ?
Ouais, je reste pour l'instant, tant qu'il n'y a pas les premiers résultats avec OneWeb, tant qu'on ne voit pas comment ça se passe, tant qu'on ne voit pas les synergies, etc., etc.
Ok, bon bah Thomas, du coup, prudence sur Eutelsat, plutôt rester à l'écart. Voilà le conseil d'Eric ce soir, et ce sera le mot de la fin. On se voit la semaine prochaine, Eric, ou pas? Je ne sais plus, c'est la
pas
semaine
sûr,
prochaine que tu avais un empêchement, je crois.
Voilà. Mais on va essayer, peut-être avant, on va essayer de...
Bon, ça marche.
De faire une version...
On vous tient au courant.
Aseptisée, édulcorée. Salut Amaury, merci de ta gentillesse.
Salut, bah écoute, merci
à bientôt à tous. Merci